La fabrique du muscle.
Et il y a vachement ce truc d'image, genre tu les vois tous ces mecs en salle de sport qui font leur traction en face du miroir là et qui s'aiment, tu vois.
Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, l'émission qui a trop longtemps misé sur le cerveau des auditeurs et pas assez sur leurs muscles. Si bien qu'on se retrouve certes cultivé, gavé de gai savoir, mais avec des biceps atrophiés, des pectoraux inexistants, voire carrément pour Quentin, un corps d'enfant à 33 ans passés. Il était temps qu'on fasse un grand mea culpa dans cette émission, car l'été arrive et autour de cette table, un seul sera gaulé comme il faut, notre invité, qui lui n'a pas séché les séances de développé couché et qui va remettre les pendules à l'heure en nous expliquant que c'est bien joli nos thèmes de journalope wokiste là, la rabisoginie, la charge mentale, la périménopause, la fenêtre d'Overton, mais on finit par en oublier l'essentiel.
Les muscles. Ils sont à l'homme ce que les pistons sont à l'automobile. Les muscles bien huilés sont une formidable source de force et de puissance. S'ils sont rouillés, les muscles craquent et c'est dommage.
C'est excitant cette fois.
Mais connaissons-nous bien nos muscles?
Pour répondre à cette question, Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, s'était proposé. Ben moi, je peux vous raconter la fabrique du muscle. En 2023, j'ai fait 4 séances de crossfit. Le prof disait que j'étais doué.
On avait oublié ça.
Tout le monde l'a oublié. J'ai poliment remercié Cyril et j'ai choisi un autre témoignage plus fort, plus documenté aussi, celui d'un économiste qui a de la fabrique du muscle une vision particulièrement intéressante puisque pour lui, il y a un lien entre la salle de sport d'aujourd'hui et l'usine d'hier, une succession de rituels quotidiens. Alors que nous dit de notre société cet essor de la musculation? Que cherche-t-on vraiment quand on cherche du muscle? Y a-t-il une sociologie du culturiste ou bien désormais pousser de la fonte et prendre des protes concerne toutes les classes sociales? Surtout Quentin, qui vient de s'inscrire chez Basic Fit, peut-il vraiment rattraper en un mois et demi 33 ans d'abstinence sportive? Son coach en tout cas a l'air sérieux.
Merci pour ces muscles. Tous ensemble. Merci pour ces muscles.
Créatine pour tout le monde, Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Et bonjour Guillaume Vallée.
Bonjour.
L'homme musclé de ce studio, le seul. Vous êtes économiste, Guillaume, maître de conférences en sciences économiques à l'université Grenoble-Alpes. Vos travaux portent notamment sur le genre et le corps. Vous êtes, je le disais vous-même, culturiste et vous avez publié un livre, La fabrique du muscle, aux éditions de L'Échappée, dans lequel vous expliquez comment le corps musclé est devenu un modèle de masculinité hégémonique, un symbole de pouvoir et de domination, dites-vous. Vous parlez aussi, on va y revenir, d'un capital corporel. De quoi s'agit-il? Eh bien, vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de vous présenter deux individus réfractaires à toute forme d'exercice physique. Elle vend actuellement sur Le Bon Coin une très belle paire de gants de boxe, emballage d'origine, jamais servi, sauf pour jeux coquins. Lui, le sport,
c'est
il le vit...
Oui, non. Ah oui, non, on lui a offert une super paire de gants de boxe.
Mais arrêtez de rager, je commence petit et après je termine plus fort.
On a collecté tout Radio France pour offrir des gants à paillettes.
Tout Radio France, comment
ceux qui ont participé, quoi.
Lui aussi, il vit le sport. Il vit le sport par procuration, comme lorsqu'il commente le Grand Prix de France Moto.
Attendez, il passe. Fabio Quartararo, pole position. Incroyable performance, j'en ai des frissons.
Des frissons, mais pas des courbatures. J'adore. Ça, c'est une sensation corporelle dont vous êtes clairement à l'abri. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour. C'est vrai qu'on n'est pas sportif.
Non,
pas
sportif. Non, c'est pas votre point fort. Voilà. À vos côtés, Guillaume, elle est ce que les patrons de salle de sport appellent la cliente idéale, celle qui s'inscrit en janvier et qu'on ne voit plus dès la mi-mars. Manon, chaque après-midi, vous nous brossez le portrait de l'autre personne à suivre.
Mais je tiens quand même à préciser que j'étais au sport hier, que j'y vais ce soir. Arrêtez de parler pour moi, c'est
vous
fou.
Fait quoi hier soir?
C'est fou. Du Pilates, bah oui. Vous viendrez avec moi, Quentin, la prochaine fois. Bref, je vais vous présenter une star de la fitness sur YouTube. Elle s'est fait connaître pendant le confinement. Des millions de personnes ont suivi ses tutos pour affermir leurs fessiers. Je vous la présente en fin d'émission.
Face à vous, Guillaume, lui, il est musclé de la glotte à force de crier.
Fabio Quartararo, pole position.
Mais il est aux toilettes quand il commente, non?
Oui, c'est bizarre, vous avez
raison de dire
vous commentiez.
Comme quand Cyril était malade.
Ça s'appelle la cabine commentateur.
Ah, très intéressant. Ouais. Mais la glotte est-elle vraiment la seule partie de son corps à pouvoir être qualifiée de tonique, sans faire injure à Madame Lui, bien sûr? Son activité physique préférée...
On peut faire beaucoup de choses avec la bouche, je vous invite à...
Alors Quentin, je vous rappelle qu'on est quand même sur France Inter, tout est suggéré normalement, pas dit frontalement comme vous venez de le faire. Je suis un peu choqué, je pense que certains de nos auditeurs aussi...
Je vous invite à réfléchir, Mathieu.
Auditrice.
Votre activité physique, Quentin, c'est la marche à pied qui vous permet d'aller à la rencontre des Français pour les interroger sur notre sujet.
Et alors, cette fabrique du muscle, ils l'ont vu arriver, des muscles saillants, des salles de sport qui poussent un peu partout et des mecs torse nus dès le mois d'avril qui courent sur les quais de Seine, un animateur radio en perte de confiance capillaire qui prend des protes, par exemple, pour compenser. Bref, les exemples ne manquent pas à Paris.
Vers 16h30, vos rutilants cerveaux galvanisés par l'écoute quotidienne de Zoom Zoom Zen seront-ils en mesure de deviner le thème du quiz ?
Les muscles.
Bravo mes champions. Oui, nous partirons à la découverte des muscles insoupçonnés de notre corps. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Rosa Burstein, dont le seul muscle important désormais est le périnée. Encore toutes mes félicitations. Mais d'abord, Guillaume Vallée, est-ce que les salles de sport sont devenues finalement des commerces comme les autres en 2025 ?
Ben, je pense qu'on peut le dire, il y a un tel succès, un tel engouement qui a fait que croître depuis une quinzaine d'années maintenant que la logique commerciale est pleinement installée. Et c'est ce que j'ai décrit dans le livre. On voit que c'est vraiment devenu un secteur de l'économie qui est très important. Pour donner une idée, on a à peu près 5000 salles en France qui réalisent 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. La tendance est la même en Europe. Donc on voit que le mode de fonctionnement, l'économie des salles fait vraiment partie du paysage français.
On va y revenir, mais comment vous expliquez-vous de l'intérieur cet engouement pour la musculation qui est quand même, excusez-moi, le sport, je le pratique un tout petit peu, le sport le plus chiant qui existe. Il n'y a pas de côté ludique à la base, c'est pas un sport d'équipe. Qu'est-ce qui fait qu'on devient accro à pousser de la fonte ?
Bon, déjà, on est dans une société de l'image, donc le muscle, on cherche à le faire voir et à le faire valoir. Donc avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui parle bien, en particulier aux jeunes. Mmh. Et je pense qu'on est aussi toujours dans une société qui attend beaucoup du travail. Et malheureusement, le travail professionnel, pour beaucoup de personnes, ne parle pas, ne paye pas, ne fait pas sens. Alors que le travail du muscle, on peut le voir,
on voit les effets. Voilà, exactement. C'est gratifiant.
Ça, c'est gratifiant. Voilà.
Toute personne visitant la salle de sport dite du CrossFit Opéra notera dans les vestiaires cette petite plaque commémorative émouvante. 6J, la carrière sportive de Cyril Lacarrière, 2023-2023. Une période où notre rédac-chef n'avait pas encore rendu les armes dans cette guerre qui oppose tout homme de plus de 40 ans à ses poignées d'amour. Maintenant qu'il a franchi la barre fatidique du demi-siècle, il a tout lâché. C'est dommage. Essaye de le bouger un peu, me disait encore sa femme hier sur l'oreiller. Bonjour Cyril.
On va rajouter ça.
J'étais sûr que ça allait être choqué.
Ça va pas.
On l'embrasse, bien.
Et après, Cyril... il critique Quentin parce que tout est suggéré dans cette émission.
Mais on parle de muscles, vous êtes en tout en émoi.
C'est vous, Manon, mais c'est vous. C'est vous la diablesse. vous qui êtes si affûté, Cyril, racontez-nous la fabrique du muscle, d'où ça sort ?
Pour fabriquer du muscle, il faut des salles de sport, et les salles de sport, d'où ça sort ? Eh bien, de chez nous, c'est apparu dans les années 80. Évidemment, on faisait déjà du sport avant ça, mais c'était plutôt dans des salles d'entraînement pour pratiquer du judo, de la gym, jouer au foot, au rugby, au basket. Bref, on faisait du sport, on ne soulevait pas encore vraiment de la fonte. Et on ne faisait pas vraiment non plus de la remise en forme. Ah. C'est Manon ?
Ah oui, Véronique et Davina.
Absolument, l'emblématique émission Gym Tonique diffusée entre 1982 et 1986. Véronique et Davina ont été de véritables précurseurs de ce mouvement de remise en forme ici chez nous, comme Jane Fonda l'a été aux États-Unis. Quentin avait les cassettes VHS de la comédienne. Il avait aussi un poster d'Arnold Schwarzenegger, époque culturiste.
Et c'est là qu'arrivent les premières chaînes de centres de remise en forme.
Oui, un terme qu'on préfère à musculation pour une raison assez simple. Musculation, ça parle surtout aux hommes, là où avec centre de remise en forme ou fitness, on ouvre à une clientèle féminine. Club Med Gym, Moving, Amazonia, les enseignes pullulent et elles font leur beurre sur des abonnements prohibitifs vendus à l'année et sur le fait que les clients lâchent le plus souvent l'affaire après quelques semaines de bonnes résolutions. Et si celles que je vous ai citées ont soit disparu, soit ont perdu de leur superbe, elles ont été remplacées par des salles low cost et, de l'autre côté du spectre, par des salles haut de gamme. Dans le sport aussi, le fossé se creuse. En France, l'an dernier, vous avez commencé à le dire, il y a entre 5000 et 6000 salles de fitness, un nombre qui ne cesse de croître. Alors pourquoi cet essor de ce secteur ? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de fabriquer du muscle ? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans la bigorexie, devenir accro au sport ? Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui faire du sport sans faire de selfie ? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
La réponse est non, Cyril. Merci quand même. Guillaume Vallée, est-ce qu'on entre dans une nouvelle ère, celle de la fabrique industrielle du muscle ? Je parle de fabrique industrielle, c'est parce que vous décrivez les salles de sport comme des usines avec des rituels comparables à ceux des ouvriers. De quoi s'agit-il ?
J'insistais tout à l'heure sur l'importance du travail. Quand on regarde l'organisation d'une salle, on voit qu'il y a plusieurs îlots. Il y a l'idée d'usiner le muscle, il y a une forme d'organisation et puis de spécialisation des tâches. Donc oui, d'une certaine manière, c'est vraiment une façon de rappeler le monde de l'usine. Moi, je me rappelle une interview d'un pratiquant qui est ouvrier, qui me disait, voilà, moi je sors de mon travail et puis j'aime bien venir à la salle pour me détendre. Et puis moi, je lui disais, c'est marrant parce que tu fais exactement à la salle ce que tu fais à ton travail. C'est-à-dire que tu te postes face à une machine, ouais, tu te chronomètes, tu notes tout sur un carnet, dis oui, mais la différence, c'est que c'est pour moi et c'est moi qui m'organise. Et je pense que c'est très important aujourd'hui. Donc ce côté industriel, ce côté de masse, on le retrouve véritablement dans les salles de sport en France.
Ouais. Une question personnelle, vous êtes économiste, vous sortez ce livre, La Fabrique du Muscle, qui a toute une analyse, évidemment. Vous êtes vous-même, vous pratiquez la musculation à haut niveau, j'ai envie de dire, en tout cas intensément. Et est-ce qu'il y a pas, comment on réussit à avoir le recul suffisant quand on est soi-même pris dans la spirale du muscle?
C'est pas évident parce que c'est très addictif. On le disait tout à l'heure, on voit les résultats, on a envie d'aller plus loin. On sent que on est poussé dans le milieu comme dans notre société. On est dans une société de la performance à toujours vouloir plus, à aller plus loin. Les réseaux sociaux exacerbent aussi ce phénomène-là. Après, je pense que ce qui est important, c'est d'essayer de pas avoir que le corps comme source identitaire, on va dire ça comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas évident parce que pour beaucoup, le corps, c'est leur statut et forcément,
c'est la première chose qu'on voit.
Exactement.
Vous êtes à combien de séances de sport par semaine, Guillaume Vallée?
Je dirais 4-5 à peu près de muscu, plus d'autres sports à côté.
À la salle, 4-5.
Ouais.
Vous faites que de la musculation? Qu'est-ce que vous faites d'autre?
Non, je fais du Krav Maga aussi.
Ah.
Voilà. Donc il faut pas l'emmerder, c'est une traduction.
Mais je suis intéressé par les gants de boxe éventuellement.
Ah. Voilà. Je pense qu'ils sont un peu petits.
Un peu gros, voilà. Je pense que c'est pas la bonne taille.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Ça doit faire tout drôle à notre invité de tomber sur quelqu'un de plus musclé que lui. Oui, on faisait un petit bras de fer en antenne et je l'ai mis minable. Oh. Pauvre Guillaume Vallée, vous êtes culturiste et économiste. Votre livre, La Fabrique du Muscle, est disponible aux éditions L'Échappée. Guillaume, en vous écoutant, on se demande s'il n'y a pas au fond le bon et le mauvais sportif. Celui qui cherche la performance physique au long cours et celui qui cherche le gain immédiat pour frimer sur les réseaux sociaux. C'est un peu ça?
C'est un peu ça, c'est pas évident de marquer la différence entre les deux, comme le bon et le mauvais chasseur, je dirais, pour d'autres raisons. Mais on se prend vite au jeu, on sait que c'est beaucoup de sacrifices à long terme et on a toujours envie d'aller plus loin, mais c'est pas facile de parvenir à ce qu'on avait souhaité, le plan initial. Et puis d'un autre côté, on est tellement bercé par des consommations immédiates, des désirs permanents, que voilà, il y a des formes de frustration qui peuvent vite arriver. Ouais.
Un mot aussi sur tout ce qui est autour de la salle de sport et parfois dès le vestiaire. Moi, j'en remarque qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des milkshakes de protéines ou des trucs comme ça, parfois même de la créatine, j'en ai vu. Ça, c'est des choses qui sont dangereuses.
Bah, vous aussi?
Qu'est-ce que vous racontez?
Alors, tous les jours, vous prenez des protéines.
Mais pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Mais vous dites n'importe quoi. Ma mère écoute cette émission. Notre invité va répondre.
Moi, je ne suis pas médecin, donc il faudrait voir peut-être avec un médecin. Je serais tenté de dire non, mais il faut essayer de trouver la mesure de ce genre de consommation. Après, ça fait partie de la culture, du milieu. Le shaker de protéines, c'est plus qu'un apport nutritionnel. C'est une forme identitaire de montrer qu'on appartient à une communauté des culturistes, en tout cas des personnes qui vont à la salle.
Et c'est votre cas?
Oui, moi j'en prends quotidiennement, et c'est quelque chose qui, a bercé un petit peu ma carrière, je peux dire ça, dans le monde de la muscu, mais c'est plus qu'un apport nutritionnel, c'est vraiment quelque chose qui montre une forme d'identité, d'appartenance.
Et du coup, c'est mal vu de ne pas en prendre?
Aujourd'hui, oui. Moi, c'était l'inverse. Moi, quand j'ai commencé la muscu en France, c'était vraiment très mal vu et mes copains se moquaient de moi, mes parents ne comprenaient pas. Bref. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui montre plutôt un facteur positif dans le milieu. Et je trouve que moi, je le vois, par exemple, chez les étudiants. Ouais. Ils sont dans l'amphi avec leur shaker à côté. Ça a complètement changé.
C'est banalisé et c'est si on n'en prend pas qu'on se moque de vous. D'ailleurs, c'est pour ça que personne ne me parle dans cette salle de sport, probablement. Et alors, vous avez évidemment du recul par rapport à tout ça. Vous dites que dans les salles de sport, il y a toujours des règles qui implicitement nous renvoient à une masculinité hégémonique hétérosexuelle où l'homme fort est finalement le mâle dominant suprême.
La musculation, historiquement, le culturisme, c'est quand même construit autour de ces valeurs comme d'autres sports modernes, où la force, le muscle incarnent cette dimension de supériorité supposée des hommes par rapport aux femmes, des hommes hétérosexuels par rapport aux hommes homosexuels, et puis aussi par rapport à d'autres ethnies. C'était quand même, à la base, chercher à consacrer la civilisation, entre guillemets, de l'homme blanc par rapport à d'autres. Et l'histoire de ce sport a été marquée pendant très longtemps par cette dimension. Bien sûr, les choses ont changé, et tant mieux, mais on a toujours quand même cette référence-là, plus ou moins implicite dans l'organisation des salles, dans les muscles qui sont mis en avant par l'intermédiaire des hommes. On voit que, par exemple, le lundi soir, il y a quand même une queue, une file d'attente sur les bandes développées couchées ou sur les machines à biceps, parce que c'est censé être le premier jour de la semaine où on est le plus en forme, où donc on va pouvoir attaquer...
les muscles les plus importants.
Voilà. Donc chez les hommes, ça reste les pectoraux et les biceps qui sont vraiment plébiscités.
Est-ce qu'on a des statistiques sur ceux qui s'abonnent ? On sait que déjà c'est un coût d'avoir un abonnement dans une salle de sport, ça ne s'adresse pas à tous les budgets. Combien de temps ils viennent à la salle ? Qui sont ces gens dans les salles de sport ?
Alors, on peut considérer qu'on a à peu près 6 millions, un petit peu plus de 6 millions de Français qui ont un abonnement dans les salles et qui pratiquent régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine. Quand on regarde un petit peu la tendance, le phénomène s'est vraiment massifié, donc toutes les catégories sociales sont concernées et aujourd'hui la diversité de l'offre des salles permet à chaque catégorie sociale de s'y retrouver, des salles comme on dit plutôt low cost, plutôt premium. Mais voilà, c'est vraiment un phénomène de masse qui se diffuse et qui brouille aussi les frontières entre la vie professionnelle, le temps de loisir, parce qu'avec le télétravail, avec la pratique chez soi, avec les influenceurs sur les réseaux, on a la possibilité aussi de prolonger à domicile des formes d'entraînement. Donc c'est vraiment très brouillé en fait. Donc il y a beaucoup plus, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup plus que 6 millions de personnes en France qui pratiquent régulièrement la musculation.
Et il y a Manon Mariani. C'est ça qui est fou, c'est l'info de cette émission.
Vous dites que dans le marketing, c'est souvent la puissance virile qui est mise en avant. Comment ça se présente ? C'est dans les publicités ? Je sais pas.
Il y a déjà la mise en scène de certains muscles que je citais tout à l'heure, donc les pectoraux, les biceps saillants qui font vraiment partie de l'idée que la personne qui peut les afficher possède un certain statut, possède une certaine force, et c'est très présent chez les hommes ou dans l'imaginaire masculin qu'on va retrouver certes à la salle, mais après dans les films, dans des comics, dans des mangas, etc., où il y a quand même ce message assez simple pour dire si vous voulez être au sommet, vous devez avoir tel corps
en particulier musclé. Là, moi, vous me parlez, j'ai l'impression qu'on parle de l'époque Schwarzenegger quand il faisait Terminator. Aujourd'hui, la star, c'est Timothée Chalamet. Il est tout flué. Il va pas beaucoup à la salle, lui.
Pas que. Et bien sûr, les formes de masculinité sont plurielles et les choses ont changé depuis les années 1980. Mais on a toujours cette référence, quand même, à des corps musclés, à des corps qui associent le muscle à la puissance. Vous prenez...
Genre Dwayne Johnson.
Exactement.
Oui, c'est vrai que c'est
la même référence, voilà, de Rock. Mark Wahlberg. Voilà, il y a plein d'exemples autour de cette association-là.
Petit soupir quand on a évoqué Mark Wahlberg du côté de Manon. Lui, quand il entre dans une salle de muscu, tout de suite le silence se fait. Surtout quand il porte son légendaire body peau de chamois, bûche apparente, qui nous rappelle l'époque glorieuse des JO et ses fameux reportages à la découverte des différents sports qu'il avait réalisés quasiment gratuitement pour France Inter, parce qu'à l'époque, il ne savait pas négocier. Quentin, c'est désormais une véritable fortune que vous monnayez vos micro-trottoirs. Est-ce que vous avez trouvé une fabrique du muscle ?
C'est en tout cas, c'était ma quête en sortant avec le micro France Inter. Mais avant, j'ai voulu voir quel regard porte la rue sur les gros muscles qui passent de partout. Je rencontre ces deux copines, Lily et Christiane, 80 et 86 ans.
La fabrique du muscle.
Oui, je trouve ça débile. Avec leurs muscles qui saillent pour faire quoi ? C'est même pas bon. Trop musclé, c'est horrible. Les femmes, elles aiment pas, faut pas croire. Il faut juste un petit peu.
Ça va, moi ?
Ça va.
Ouais, ça rigole, hein, la team des Christianes, ça rigole. Mais bon, c'est ici que je croise la route de Beñat, qui est un prénom d'origine espagnole. Il découvre le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
La fabrique du muscle. Oui, je pense que d'une certaine manière, on a beaucoup parlé, et on parle encore, heureusement, elles en avaient besoin, avec tous les mouvements féministes, de toute la pression mise sur les corps des femmes depuis des millénaires. Et je pense que chez les hommes, on vit quand même une espèce de retournement de manivelle, où il y a aussi énormément d'impositions, un culte au corps. Par exemple, dans la communauté gay, c'est extrêmement flagrant. Il y a quelque chose d'omniprésent, d'extrêmement stéréotypé, dont on parle pas forcément beaucoup, mais c'est-à-dire, je pense que ça va venir.
Alors ça m'intéresse. L'injonction à un corps normé ne concerne finalement plus que les femmes. Pourquoi ce serait particulièrement vrai au sein de la communauté gay ?
Bah, on est vraiment dans un truc où on crée un modèle de masculinité autre, extrêmement limitant, extrêmement cloisonnant, du mec un peu viril, mais un peu sensible, mais avec un corps quand même irréprochable, extrêmement musclé, ceci. Si on va en soirée gay, c'est ça, c'est un culte au corps. Et donc je pense que c'est très dangereux, c'est encore une fois un carcan, c'est encore une fois un formatage qui exclut. Donc je pense que c'est absolument contre-productif. Donc le culte du corps, faut s'en méfier, oui.
Cette étudiante maintenant part en cours. Je lui montre le livre de notre invité.
La fabrique du muscle. Ouais, mais en vrai, ça m'étonne pas. Enfin, il y a vachement ce truc, du coup, de vouloir avoir
plein de gros muscles, là, les gros mascus qui veulent en imposer et tout, là.
Ouais, pour elle, cette fabrique du muscle dit même quelque chose d'idéologique.
Les vieux mecs, là, avec une vieille façon de penser, bien mascu, bien misogyne et tout, qui... Enfin, ne serait-ce que pour la petite anecdote, j'ai une pote qui s'est fait, genre, menacée par un mec dans un commentaire, un mec bien misogyne qui était en mode... Attention, un féminicide, c'est bien, c'est vite arrivé. Donc, quand même, une menace vénère.
De mort. C'est une menace de mort.
De mort. Ah oui, mais parce que dans son commentaire, il disait justement « Souviens-toi que l'homme est supérieur corporellement à la femme et tout, et il est plus développé et plus machin, etc. Et... »
Je lui demande quand même si elle se sentirait à sa place dans une salle de sport.
Bah, franchement, en vrai, j'ai pas envie d'aller dans une salle de sport. Enfin... Et il y a vachement ce truc d'image, genre tu les vois tous ces mecs en salle de sport qui font leur traction en face du miroir là et qui s'aiment, tu vois. Ils s'aiment se regarder là, leurs grosses vénasses là qui apparaissent. Tu le vois, genre. C'est vrai.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Au bout d'une petite cour, il y a enfin cette salle de sport. Ouverture par badge, il faut être membre avant qu'il n'entre. Je demande à Adrien ce qu'il vient faire.
Je vais faire une séance pec triceps.
Super, il s'est mis à la salle il y a 2 ans et demi et ça a changé quelque chose chez lui.
C'est vrai, tu fais du sport, ça te donne beaucoup plus confiance en toi déjà, premièrement. Déjà corporellement. Corporellement, tu vas dans une piscine à la plage ou tu vas directement à la plage l'été, tu sens directement que t'as plus de présence, t'as plus de charisme. En 2 ans et demi, oui, mon corps il s'est transformé énormément, bah, bien sûr à mon échelle. J'y vais 3 à 4 fois par semaine. Ouais, il s'en est beaucoup transformé dans la première année et après ça se ralentit au fur et à mesure. Voilà, on peut pas devenir des hulks sans produits, bien sûr.
On peut pas devenir des hulks sans produits, ça veut dire que la question se pose ou s'est posée?
Ah, on en parle tous, hein, sur les réseaux, TikTok, dans la salle de musculation directement, on en parle tous. T'as atteint ton maximum corporellement, t'es déjà sec, t'es déjà assez massif. Si tu veux plus, ça va être produit dopant directement.
Avant de le laisser filer, je lui parle des miroirs, les fameux miroirs dans les salles de sport.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le miroir, ça joue un rôle important dans la salle de musculation. Et c'est important aussi, c'est important.
Tu te regardes quand tu soulèves un peu de poids, là? Quand tu pousses de la...
Un petit peu, c'est vrai. Maintenant, on est habitué, maintenant, on se regarde plus trop. Mais au début, comme je t'ai dit, dans la première année, ouais, tu te regardes beaucoup.
Et c'est ok.
Ouais, c'est ok, y a pas de souci, tout le monde se regarde, y a pas de souci.
Adrien, le gardien de miroir. Fabriquer du muscle, ce n'est pas juste soulever de la fonte, c'est soulever des regards, des normes, des désirs et parfois des doutes. Et dans cette fabrique-là, chacun forge un peu de soi dans le miroir, mais surtout dans le regard des autres.
La fabrique du muscle, c'est votre livre, Guillaume Vallée. Je rappelle que vous êtes économiste et que vous connaissez bien, pour pratiquer vous-même, la musculation. Ce symbole du miroir dans les salles de sport, c'est vrai qu'ils sont là, à la base, ils sont là pour qu'on se regarde, mais pour qu'on équilibre bien les mouvements. C'est pas forcément pour se regarder dans un objectif narcissique, mais c'est devenu un peu narcissique.
Il y a le côté technique, comme vous venez de le dire. Il faut regarder le mouvement, être hyper précis, travailler le détail. Donc le miroir a toujours constitué une aide précieuse pour les puristes, je dirais. Mais effectivement, on voit qu'au-delà de ça, le miroir fait partie du décor des salles et c'est facile de regarder les autres à travers le miroir pour ne pas les regarder directement. Donc on voit les jeux de regard qui sont souvent présents et qui voilà, permettent d'admirer, de détester, d'envier, etc. Donc voilà, vous allez trouver des miroirs partout dans les salles.
On a entendu Beignat, c'est ça, dans le micro-trottoir, qui parlait de son corps très musclé, qui appartient de plus en plus aussi au code des hommes homosexuels. Pourtant, vous dites que les homosexuels et les femmes sont les grands oubliés des salles de sport.
Alors, officiellement, dans l'histoire de la discipline, en particulier dans les concours, ces deux catégories ont été perçues comme ne faisant pas partie de la philosophie, je dirais, officielle, parce que derrière, il y avait déjà une volonté de marchandiser aussi le système, d'industrialiser. Quelqu'un comme Arnold Schwarzenegger a été aussi utilisé par l'industriel qui était derrière toute cette machine, Joe Weider, qui avait très bien conscience que Schwarzenegger illustrait l'homme parfait pour attirer des hommes hétérosexuels dans les salles et massifier, je dirais, la pratique. Mais de fait, on voyait que déjà aux États-Unis dans les années 70, dans les années 1980, dans la communauté gay en particulier, il y avait une très très forte demande pour les raisons qui ont été expliquées dans le témoignage en particulier. Je pense qu'il ne faut pas oublier aussi les années 80 très particulières qui sont celles aussi des années SIDA, qui ont créé un petit peu un fantasme de dire que voilà, le corps qui apparaît en bonne santé, le corps musclé est un facteur de sécurité, etc. et permet à une époque où il pas tous les réseaux sociaux, de sécuriser voilà, les relations amoureuses, sexuelles. Donc ça a aussi, je dirais, massifié la pratique au sein de cette communauté. Et puis les femmes sont arrivées dans la pratique à la fin des années 70, enfin, parce qu'elles n'étaient pas officiellement, par exemple, autorisées dans les compétitions de bodybuilding. Mais comme dans beaucoup de domaines, ça a été très très difficile pour elles, parce qu'elles étaient reléguées en fin de compétition, où il y avait associé aux compétitions de bodybuilding pour les femmes des compétitions de Miss Bikini. Voilà, toujours rappeler ce souci de se dire on s'excuse d'être femme dans ce sport-là et il faut qu'on rappelle notre féminité.
Pour cette étudiante, l'idéologie masculiniste se cache derrière les muscles masculins, pour le coup. Vous êtes d'accord ?
Elle peut être présente. Disons qu'il ne faut pas non plus, je pense, généraliser, parce que le muscle, il est ce qu'on veut en faire aussi. C'est une forme, tout à l'heure je parlais de travail associé au muscle, qui peut être une forme de libération, qui peut être vraiment de gauche d'une certaine manière, et de rejet total de toute forme de masculinisme dans une volonté d'égaliser les choses. Mais c'est vrai que d'autant plus aujourd'hui, avec les débats qu'on peut entendre, vous avez des groupes d'hommes qui vont chercher à réaffirmer de façon très visible l'idée d'une masculinité fantasmée à travers leur corps et pour des raisons de pouvoir, de puissance, etc.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
En attendant de découvrir le plus musclé des chroniqueurs de Zoom Zoom Zen, Pierre Courade, dont les cuisses en béton, sculptées par 230 km de vélo ce week-end, n'ont plus rien à envier à celles de Bernard Hinault à la grande époque, je vous propose de jouer avec votre corps, avec toujours en ligne de mire, bien sûr.
La bouillard.
Non, Quentin, le gai savoir. Jouons au Zoom Zoom Test, à la découverte aujourd'hui de ce qui est dramatiquement absent du corps de Quentin.
Les muscles.
Chacun d'entre nous en possède normalement 639. Manon, qui s'est enfin mise au pilates, en connaît 3. Cuisses, abdos, fessiers. La première fois qu'elle a découvert sa sangle abdominale il y a de ça 3 semaines, qu'elle a compris qu'il y avait un muscle au-dessus de ce qu'elle appelle pudiquement sa boîte à plaisir, ça lui a fait tout drôle.
Malice, j'ai envie de trouver sous un camion. Oh.
Elle découvrait enfin, j'en ai perdu mon casque avec toutes ces émotions, elle découvrait enfin ce qu'elle avait toujours pris pour une légende urbaine, les courbatures. Alors aujourd'hui, avec la multiplication des salles de muscu, on peut travailler n'importe quelle partie de son corps. La fabrique du muscle, c'est industriel, hein, grosse cadence, gros volume, du matériel hyper sophistiqué. Prenons au hasard Pierre Courade. Petit short rouge, comme on l'appelle à l'usine, club intimiste où le sport se passe aussi, dans le hammam. Dernièrement, afin de ne plus apparaître claudiquant sur ses stories Instagram lorsqu'il descend péniblement un escalier, Pierre a demandé à son coach de travailler son muscle arrecteur. Hélas, il a dû confondre, car le muscle arrecteur est celui qui commande. Les poils des avant-bras de Quentin quand il écoute Patrick Fiori, les glandes salivaires de Cyril quand il lit Dobocep sur l'ardoise du Blériot, ou l'iris de Manon quand elle reçoit un dick pic de François Civil.
B. C.
pauvre Manon. Quentin, vous voulez C, non Manon?
Bah, j'ai dit B, moi.
B, bah, je n'ai pas de bonne réponse. Bon, bah, alors, c'était la réponse A. Oui, bien sûr, la réponse A. Qu'on va écouter.
Tu reviens.
Oula.
Quand Patrick monte comme ça dans les aigus, précipitant Quentin au bord de l'orgasme, il nous fout les poils.
Je me rappelle qu'il a fait un duo avec lui.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et les archives existent.
On l'a pas assez diffusé.
Mais ça peut se faire très rapidement.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est donc le muscle arrecteur ou érecteur du poil qui entre en jeu, puisque ce mini-muscle est attaché au follicule du poil et réagit au froid ou à certains stimuli, tels que par exemple une envolée lyrique de Patrick Fiori ou un vol au vent particulièrement riche en béchamel pour Cyril. Cyril, cet homme sévère mais juste, dont l'unique paire de running n'a même pas eu l'occasion de faire une seule sortie en dehors de son emballage. Cyril, dont le regard ombrageux est le fruit d'une chafouin routine exigeante. En effet, pour froncer aussi bien les sourcils, Cyril mobilise un grand nombre de muscles. D'après vous, combien ? 2 ? 26 ? Ou 43 ?
43 !
Non, 26. C'est... Parce qu'il en faut beaucoup pour froncer autant.
Ouais.
Vous avez visualisé toutes ces conférences de rédaction où Cyril s'énerve. C'est la réponse. C'est bravo Manon, 46. Et oui, pas 43 muscles sont nécessaires pour froncer les sourcils. La légende dit que Cyril, ce culturiste de la mauvaise humeur, est capable de casser une noix de coco rien qu'en clignant des yeux. Impressionnant. Tout aussi impressionnant d'ailleurs que cet effet sonore.
Finement travaillé.
Brisement de noix de coco. Alors que Quentin, lui, c'est l'inverse, il sourit tout le temps. Et surtout aux gens qui peuvent lui servir professionnellement parlant. Ainsi, d'après vous, combien de muscles Quentin utilise-t-il à chaque fois qu'il décroche un grand sourire à Nagui dans les couloirs de France Inter ?
Mais non, on ne se parle plus.
Bah, zéro, question, parce qu'il le croise pas.
La question porte sur le sourire, pas sur le clin d'œil complice qui va avec. 24 muscles, 86 muscles ou 17 muscles pour sourire.
Bébé.
C'est
86.
C'est.
Ouh, là vous ne souriez pas, vous êtes très sérieux Quentin.
On parle de
Et c'est une bonne réponse. Effectivement, seuls 17 muscles sont nécessaires pour sourire, il est donc plus facile de faire la gueule que d'avoir l'air avenant après toutes ces années. Le mystère Mariani est enfin élucidé. Manon, dont la pratique intensive du cross chablis suscite l'admiration de tous les cavistes du 11e arrondissement, trouvera forcément la réponse à la question suivante. D'après vous, quel est le muscle le plus puissant parmi les trois suivants ? Le quadriceps ? le muscle massétaire, celui de la mâchoire, aïe, ou le muscle de la langue.
B, c'est...
Vous avez failli vous faire
non,
mal
non,
à la mâchoire.
La langue, non, c'est la langue.
C'est la langue, le
non,
plus
non,
puissant.
Non, non, B, c'est la mâchoire, je
B,
pense.
B, sinon une autre réponse, peut-être.
Les trois.
Bah, les trois.
Non, non,
bah,
non. Non, catastrophe. C'est la réponse A. Contrairement à une idée reçue, à laquelle l'abbé Chibrard a fortement contribué dans ses cours d'éveil au sens, la langue n'est pas le muscle le plus puissant, c'est bien le quadriceps, cher aux leg days de notre rédacteur en chef adjoint, Petit Short Rouge. Le muscle master est un des muscles de la mâchoire, l'un des plus puissants du corps humain, avec en moyenne une pression entre 60 et 100 kg au centimètre carré. Mais c'est toujours 20 fois moins que la mâchoire du plus vénère du monde animal, qui est celle de l'orque, du crocodile ou du Lacarius contrarius.
B.
Ah ouais, c'est peut-être... Ah, l'orque, c'est chaud. Hein.
Là, l'orque, c'est chaud. Voilà, voilà une réflexion frappée au coin du bon sens. Et c'est pourtant une bonne réponse de Manon Mariani. Le crocodile, évidemment. Avec cette question, nous avons pénétré le dernier cercle du gai savoir. En tout bien, tout honneur, bien sûr, je précise pour la maman de Marie de Breuer, qui a vraiment l'esprit mal tourné. Et c'est pas fini, parmi les trois affirmations suivantes, laquelle est vraie? Bosser ses triceps diminue les risques de diabète. Le gainage statique lutte contre l'hépatite. Ou faire des squats empêche la diarrhée.
B, B.
Les trois.
B, B.
Les trois.
Mais non, pas les trois. B.
Non, A, A, A.
Ah, bonne réponse. Enfin, enfin une bonne réponse de Manon.
Vous avez dit la diarrhée ?
Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas sur la chaîne YouTube de Didier Raoult. Travailler ses triceps permet vraiment de lutter contre le diabète. Des chercheurs ont découvert que les myokines, des protéines particulièrement présentes dans les triceps, ont un effet direct et bénéfique sur le pancréas et donc le fonctionnement de ce muscle qui atténue les risques de diabète. Quant à faire des squats quand on a la diarrhée, attention aux audacieux, on est plus dans la prise de risque que dans la prise de masse. Victoire magnifique de Manon Mariani. Comme quoi, vous ne connaissez vraiment rien en
comme
musculation.
Comme quoi, je vais vraiment à la salle de sport, merci.
Une fois n'est pas coutume, on parle muscle dans Zoom Zoom cet après-midi avec Guillaume Vallée, économiste et lui-même culturiste. Guillaume, votre livre « La fabrique du muscle » est publié aux éditions de L'Échappée. J'aimerais revenir sur quelque chose qu'on se disait hors antenne tout à l'heure. Vous me parliez d'une notion intéressante, le capitalisme de vulnérabilité. Aujourd'hui, on ne fait plus de la muscu uniquement pour être esthétiquement parfait et musclé, mais aussi dans un but de pouvoir se défendre ou de réagir dans des situations extrêmes.
Oui, je pense que le muscle fonctionnel, c'est-à-dire qui va servir à quelque chose, est vraiment revenu en force parce que l'idée, c'est de pouvoir utiliser ces muscles face à quelque chose qui surviendrait, qui nous mettrait en danger, mais une agression.
L'actualité, la guerre, par exemple.
Oui, un conflit armé, une agression, comme je viens de le dire, mais aussi une vulnérabilité plutôt sanitaire. Donc l'idée de pouvoir penser que le corps musclé est plutôt une forme de protection par rapport à tout un ensemble de pathologies. Donc ça, on le voit, par exemple, je trouve, c'est dans l'évolution des techniques d'entraînement ou de certaines activités, alors le crossfit bien sûr, mais l'aerox qui est aussi très à la mode.
Le pardon ?
L'aerox, c'est-à-dire que vous êtes dans une salle et vous allez courir par exemple, vous allez alterner entre de la course à pied et du soulevé de poids. Pendant 2 km vous courez, après vous soulevez quelques poids et puis vous recourez derrière, etc.
Il y a une grosse compétition non, au Grand Palais dernièrement.
Ah oui, 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 il y a vraiment de plus en plus de compétitions, ça s'internationalise de plus
ça,
en plus.
Ah c'était ça, ce truc au Grand Palais ?
Oui, voilà.
Vous y étiez ?
Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais en tout cas, ça devient de plus en plus populaire et c'est prisé par de plus en plus de personnes.
Vous dites, j'ai pu observer que pour les personnes dont la vie professionnelle ne fait pas sens, le travail du corps est un substitut.
Oui, bah, c'était notamment en lien avec l'exemple que je donnais tout à l'heure de la personne qui est ouvrière. En fait, le fait de se dire qu'au travail, l'objet qui est produit ne fait pas sens, on n'a pas une place qui nous convient, on n'a pas un statut vraiment valorisant. Finalement, le travail ne fait plus sens et l'objet final nous échappe. À l'inverse, le corps, on l'a avec soi. C'est une ressource pleinement disponible. On peut chercher à en faire quelque chose et surtout à la valoriser en tant que capital, c'est-à-dire la mettre en avant sur un marché, marché du travail, marché des rencontres, etc. Donc pour certains, voilà, il y a vraiment une substitution qui peut s'opérer entre les deux.
Mais Manon, vous dites que dans l'idée d'une masculinité assez dure, assez binaire, voire violente, le muscle a surtout attiré des gens de droite et d'extrême droite. C'est pas un peu réducteur ?
Alors oui, bien sûr, on ne peut pas considérer qu'il n'y a que ça. Comme je disais tout à l'heure, d'une part, dans l'histoire, c'est vrai que le muscle a été récupéré par des régimes plutôt autoritaires ou totalitaires, par des idées de droite ou d'extrême droite, parce que ça symbolisait l'ordre, ça symbolisait des espèces de temps glorieux anciens où tout allait bien et la force était présente et s'incarnait à travers le corps musclé, en particulier chez les hommes. Maintenant, c'est clair que, comme je répète, le muscle, il est ce qu'on en fait. Et vous pouvez aussi trouver à gauche des personnes qui vont considérer qu'il y a une forme de libération.
C'est quoi le muscle de gauche?
Le muscle de gauche, vous en avez croisé beaucoup en ce temps-là.
Le muscle de gauche, oui, bah, en fait, c'est vraiment des gens qui considèrent que le corps musclé peut permettre de retrouver d'autres formes parfois de sociabilité, d'autres formes de rapport au travail, et aussi toujours dans cette perspective de vulnérabilité, puisque ceux qui sont à l'extrême droite vont utiliser leur corps pour être plus violents ou pour affirmer un rapport de force, bah, c'est aussi être prêt à lutter contre ces gens-là.
Un dernier mot, est-ce qu'on fait trop de sport? On a fait une émission ici sur la bigorexie avec un culturiste repenti qui aujourd'hui ne faisait plus que de la marche à pied. Est-ce que, bon, ça peut être trop loin dans l'autre sens, mais est-ce qu'on présente tellement le sport comme quelque chose de presque médicalement important dans la vie? Est-ce qu'on n'en fait pas trop de ce côté-là? Est-ce qu'on ne va pas avoir une génération de gens qui vont avoir des petits problèmes osseux, d'articulation à force de faire tant d'activités?
Alors, d'une part, pour moi, s'il y a une balance à faire, je pense qu'il vaut mieux faire du sport que pas faire du sport, c'est certain. Après, oui, il y a ce risque-là, parce qu'on est vraiment dans une sportivisation de l'existence, on peut le dire comme ça, c'est-à-dire que les grands sportifs sont les nouveaux modèles collectifs, les jeunes s'identifient à ces personnes-là, et on est très facilement dans une logique extrême, mais je dirais d'emblée. Si on veut faire du sport, c'est aller de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus fort. Il n'y a plus de marathon, il y a des ultra-trails, il n'y a plus des séances irrégulières à la salle, c'est une fois par jour, voire deux fois par jour. Donc oui, il y a ce côté extrême qui peut inquiéter, à la fois, je dirais, physiologiquement, mais aussi socialement, parce qu'il y a des phénomènes aussi d'isolement derrière qui peuvent survenir.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Elle est revenue de week-end avec des courbatures monstrueuses. La faute à une randonnée dans les Goudes. Le mot randonnée signifiant chez elle qu'à un moment, entre la route et la plage, il y a eu des escaliers ou un sentier non goudronné. Manon...
Mon petit copain vous dirait exactement la même chose.
Vous avez, vous avez fait la moitié.
Mais ça va.
Vous avez fait la moitié de la randonnée.
Vous êtes critique comme avec ça,
vous êtes,
moi.
Vous êtes arrêté un moment de la randonnée. C'était trop long.
La personne à suivre.
Elle n'est pas allée jusqu'à la mer.
Non,
la personne à suivre, Manon, si vous voulez.
Je vous présente Célia Léo. Elle a 33 ans, elle est française et c'est une star de la fitness sur les réseaux.
Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une séance 100% legs, 100% adducteur, l'intérieur de cuisse. On attaque par l'échauffement, sans plus tarder. C'est parti.
C'est parti. Alors, vous la connaissez sous le nom de Sissi Mua. Elle a plus de 2 millions d'abonnés sur YouTube, 1,5 sur Instagram, 700 000 sur TikTok. Sissi Mua propose, on l'a entendu, des tutos pour aider à se raffermir, à sculpter ses abdos, à muscler son fessier. Il y en a pour tous les niveaux et de toutes les durées. Au départ, c'est sur YouTube seulement qu'elle s'est lancée. C'était en 2009. Sa spécialité à l'époque n'est pas le sport, mais le maquillage, d'où son pseudonyme Mua, qui veut dire make-up artiste. À l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de youtubeurs fitness. Les femmes étaient surtout cantonnées à parler de mode et de maquillage sur YouTube. Mais un voyage au Brésil va changer la trajectoire professionnelle de Sissi Mua. Là-bas, elle, qui a toujours été assez sportive, découvre le monde du fitness, et en particulier le monde du fitness féminin. Elle hallucine de voir autant de femmes à la salle de sport pousser des haltères. Pour elle, c'était un milieu assez masculin, du moins c'était l'image qu'elle en avait en France. À son retour, elle commence donc à changer son contenu YouTube. Fini le maquillage, les routines sportives deviennent sa spécialité. On est en 2013 et les vidéos de Sissi Mua commencent à bien fonctionner. Au fil des années, certaines atteignent même les millions de vues. Elle décide donc en 2019, avec son petit ami aussi passionné de fitness, d'investir toutes leurs économies pour créer leur propre plateforme de coaching sportif. Là-bas, ils proposent plusieurs programmes, plusieurs coachs aussi. On peut payer pour avoir plus de contenu. Bref, Sissi Mua crée son business autour du sport. Et elle a eu le sens du timing malgré elle, car 2020 va signer l'apogée de sa carrière. Évidemment, le monde entier est confiné et faire du sport à la maison, bah, c'est devenu la routine de millions de Français. Résultat, ses tutos YouTube sont partagés partout sur les réseaux, partout dans le monde, et son nom devient une vraie référence. Selon Forbes, sa plateforme Trend Sweat It cumule plus d'1,5 million d'utilisateurs un an seulement après sa création. Depuis, elle a aussi lancé sa marque d'équipement de sport, sa marque de compléments alimentaires. Sa réputation a toutefois été un peu entachée l'année dernière après des accusations de management toxique. Elle s'est défendue en déclarant que c'était des propos diffamatoires à son encontre.
Cyril avait dit la même chose. Merci beaucoup Manon. Petite question très rapidement, question très rapide. Cette perfection que mettent en scène les influenceurs, à la salle de musculation aussi, leur appartement, tout est parfait. Cette apparence de perfection, c'est dangereux en termes de modèle ?
Oui, parce que ça peut donner l'idée qu'il suffit aussi de suivre exactement la vie de ces personnes-là pour réussir. Et je pense que ça attire beaucoup de jeunes, parce qu'on a parlé beaucoup de la consommation du muscle, c'est-à-dire le fait d'aller dans les salles, mais il y a aussi tout le volet production du muscle, entrepreneuriat de nouveaux types qui apparaît. Et là, voilà, et ça peut faire rêver beaucoup de jeunes avec beaucoup de déceptions, bien sûr.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Ceci est un message de prévention du ministère de la Santé. À l'approche de la quarantaine, personne n'est à l'abri d'un micro AVC. Si vous ressentez des moments d'absence, des blancs, alors que vous parlez, que ce soit simplement une ou deux fois, ou 16 fois, comme Pierre Courade hier dans sa chronique sur France Inter, ne tardez pas, consultez rapidement un spécialiste. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu. Bonjour à tous.
Tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono, on l'espère.
Ouais, bah, c'est vrai qu'hier, j'avais envie de m'évaporer après le petit carnet.
Oh non, mon Pierrot.
Hier soir, je suis donc allé à la salle de sport pour m'imprégner du sujet du jour. J'y ai croisé notre invité d'ailleurs, Guillaume Vallée, l'économiste culturiste qui n'avait plus assez de poids pour réaliser sa série de back squats. Faut dire qu'à l'arrivée des beaux jours, les salles de sport ne désemplissent pas. On est en plein dans ce que notre invité appelle la fabrique du muscle. Pour Guillaume Vallée, c'est toute une économie qui découle des salles de sport. 6 millions d'abonnés, 5000 établissements, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une logique commerciale qui s'appuie sur la société de l'image. Il faut pouvoir se montrer sur les réseaux sociaux. Une logique qui s'appuie aussi sur la perte de sens au travail. Le muscle permet de trouver une gratification personnelle. On est dans le capitalisme du sport, un univers où la géographie même des salles est faite pour jouer, faire jouer la concurrence. Les miroirs permettent de se comparer comme on comparerait deux produits. Le problème, c'est qu'ici, autour de la table, même si on est des produits du sport, mis à part vous, Guillaume, on serait acheté au rabais.
Et allez,
même votre patron.
Un petit tac.
Dis donc, faites attention à ce que vous dites, Courade.
Non, mais autour de la table, je vous compte pas, Mathieu.
Ah oui, très bien.
Vous êtes une petite failloterie de faim, très bon. Merci Pierre, vous êtes très bien retombé sur vos pattes. Amélia Doutre-Tombe est avec nous, vous êtes désormais une invitée récurrente. Nous aimons vous recevoir ici dans Zoom Zoom Zen.
Moi, je me demande si cette émission ne sert pas plutôt à organiser des dîners de cons. Ben, j'ai toujours l'impression que vous vous foutez de ma gueule. Mais je peux pas dire non à un peu de visibilité, hélas. C'est vrai qu'à chaque fois que je passe ici, je triple mes ventes. La dernière fois, j'ai vendu 6 recueils de poèmes. J'ai pu m'acheter une bougie parfumée senteur anus de Mathieu Noël. Et ben, on trouve de tout sur le Darknet.
Je croyais que les stocks étaient épuisés, mais revenons à vous, Amélia. Cette fois-ci, vous sortez un recueil de poèmes illustrés, de photos.
Bah oui, disons que l'auto-édition en poésie, c'est pas facile. Mais la éclaircie dans le brouillard de ma carrière, j'ai trouvé une maison qui voulait bien m'accompagner, la grosse coquine. C'est une ancienne maison close, mais qui fait maison d'édition maintenant. Ils font pas mal de romans porno-gothiques. Et disons que je correspondais à leur style. Quand je leur ai dit que j'écrivais souvent en nuisette, entourée de cadavres, de chèvres en putréfaction, ils ont tout de suite été emballés. Ils m'ont demandé si je voulais bien rencontrer un photographe, Patrick Moison, et poser nu pour illustrer mon recueil sur le corps, intitulé « Frissons et délabrements ». Je demande à voir une photo de Patrick, à qui je vais dévoiler mon précieux pain au raisin quand même. Il me le montre sur internet et là j'en reviens pas. Mais je le connais. J'avais déjà croisé Patrick à une randonnée nocturne pour visiter la tombe de Lamartine à Saint-Point. On avait bien accroché. J'avais bien senti son bâton de rando télescopique, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais gravé son numéro de téléphone avec un cutter rouillé sur ma peau, mais avec la cicatrisation, j'ai pas pu lire dans les croûtes. Et j'ai jamais pu le rappeler. Donc grâce à la grosse coquine, ma maison d'édition, Patrick et moi on s'est retrouvés. Je suis devenu sa muse. Pour mon poème Le double menton, il m'a photographié en contre-plongée. On a joué avec les plis de ma robe noire pour rappeler les plis de mon goitre. Il me disait, tu me rappelles Balladur? Et je me rendais plaisir. J'étais là, mais arrête Patrick, arrête! Pour mon poème Saint qui pende, j'avais pris un bain bien chaud et Patrick m'avait photographié dans l'eau trouble de mes ragnagnas. Et il me dirigeait, pense que tu es une sirène dans la mer rouge, Amélia, regarde plus suave, mamelon plus dilaté, voilà, comme ça. Il était juste un peu déçu que j'ai pas plus de vergetures et de crevasses. Mais par contre, j'avais la mollesse requise. Ce recueil est un plaidoyer politique, vous comprenez, contre les salles de sport et les corps bodybuildés, incarnation de la décadence moderne. L'ignominie du culturiste inculte qui commande son repas Uber Eats en courant sur son tapis de course avec un regard de bœuf, c'est l'allée de l'humanité. Ça me donne envie de me pendre, mais alors d'une force. On a fait une photo comme ça d'ailleurs, moi qui me mets la corde au cou plutôt que de soulever une haltère. Le plus dur a été de choisir la corde, parce que je fais une collection de cordes de pendu, j'en ai environ 250. Je les rachète aux agriculteurs, ils en ont plein. Bref. Je suis pas contre toute forme d'activité physique. Je vous ai dit que je faisais des randonnées entre gens de belles lettres, donc j'ai les mollets plutôt galbés.
Oui.
Mais j'ai la peau diaphane, car je dors le jour, je sors la nuit, notamment quand je promène mes deux rats, Mephisto et Lucifer. Alors du muscle, pourquoi faire? À la limite pour soulever une plaque d'égout et aller dans les catacombes. Mais il y a toujours Michel dans ses sorties, devant. Bon, pour finir, je vais vous lire un poème extrait du recueil.
Ah oui.
Beauté décrépitude. Mon aisselle bleutée sans la moutarde. Comme un fruit défendu, je la regarde. Ma bouche est une cavité, j'ai une carie toute pourrite. La dent tombera comme tout avec la gravité. un peu comme ta petite.
Merci, merci, merci Rosa Burstein, la dernière rime est riche et elle est belle. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom sur scène avec votre spectacle dédoublé à Paris le 16 juin au Théâtre de la Renaissance, en tournée à Toulouse, Poitiers et Rennes, et vous serez également au Festival d'Avignon, mais rien ne vous arrête. Comme pour vous, mon cher Guillaume Vallée, qui allez pouvoir exposer tous vos muscles sur les plages cet été, tout en expliquant que la muscu c'est surfait. Je rappelle votre livre La Fabrique du Muscle aux éditions de l'Échappée, dans lequel vous dénoncez d'une main le symbole du pouvoir qui est devenu le corps musclé, pendant que de l'autre vous faites des tractions. Vous, ne bougez pas, il n'y a rien de bon pour vous à la salle de sport, alors qu'il y a tellement de choses formidables qui vous attendent sur Inter juste après le journal de 17h, avec notamment nous. Zoom Zoom Zen, la suite et son cortège d'actu palpitante, avec notamment le portrait de Thibaut InShape par Manon Mariani. Thibaut InShape qui sera ce soir sur TF1 pour interroger Emmanuel Macron, Camoulox, la prise de conscience des parents d'élèves de Betaram dans Sud-Ouest, l'ouverture bien sûr du Festival de Cannes avec Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian, elle, est à Paris pour le procès de ceux qui l'ont attaqué et volé en 2016, The Justice Française is so fast, se serait-elle exclamée en arrivant. Et puis on parlera crise du couple et santé mentale chez l'adolescent à travers le nouveau roman de Virginie Grimaldi, l'autrice aux 8 millions de livres vendus. Zoom Zoom Zen.